France Info.
Bonjour Marie-Pierre Revel.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste d'imagerie pulmonaire et engagée, militante spécialiste des maladies pulmonaires à l'hôpital Cochin. Vous êtes à l'origine des premières demandes de dépistage de ce cancer qui ne fait pas mal, qui ne fait pas de bruit et qui progresse silencieusement. En 25 ans d'exercice, vous avez constaté que des personnes de plus en plus jeunes et surtout de plus en plus souvent des femmes étaient touchées par le cancer du poumon. Les derniers chiffres sont d'ailleurs très révélateurs. Le cancer du poumon est devenu la première cause de mortalité chez les femmes par cancer. Si on se réfère d'ailleurs au site de l'OMS, devant celui du cancer du sein, avec une augmentation de 4% par an, soit 20 000 nouvelles patientes par an. Il est aussi le troisième cancer le plus fréquent en France. Votre combat est déterminé, car vous avouez dans votre livre « En finir avec le cancer du poumon », c'est possible, aux éditions Le Duc, que vous avez un compte personnel à régler avec cette maladie depuis que votre cousine Véro, avec laquelle vous avez grandi, a disparu à 58 ans. Cet ouvrage est un guide, un précieux éclairage sur l'urgence de comprendre qu'il est temps d'en finir avec la dépendance à la cigarette, que la cigarette est d'abord un poison, une addiction qu'il faut traiter, un mal qui touche beaucoup d'entre nous. Ce livre nous explique comment aussi il est important et pourquoi il est important d'aider et d'accompagner celles et ceux qui fument à s'arrêter, ce qui n'est absolument pas simple. C'est un plaidoyer pour vous, Marie-Pierre Revel, pour le dépistage du cancer du poumon et l'arrêt du tabac.
C'est vrai que les taxes sur le tabac rapportent à l'État de l'argent, mais si on se place un peu plus à moyen et plus long terme, les coûts pour l'assurance maladie engendrés par toutes les maladies dont l'intoxication tabagique est responsable, la balance, elle est vraiment en faveur d'extirper cette cigarette de notre société. Il n'y a pas le choix, c'est pas un art de vivre, c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, responsable actuellement d'un vrai drame sanitaire.
Pour mieux comprendre comment le mal est arrivé en France, vous nous proposez un cours d'histoire sur l'arrivée du tabac en France avec une apparition en Europe au 15e siècle, juste après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Ce sont les explorateurs portugais et espagnols qui se sont rendus compte que cette plante était consommée à des fins donc rituelles, médicinales et récréatives. C'est le diplomate Jean Nicot qui a fait entrer ce mal en France, qui a donné le nom Nicotania d'Abtabacum, bien plus tard, quand il réussit à soigner les maux de tête d'un certain François II.
Fils de Catherine de Médicis.
Voilà. Au XVIIe siècle, le tabac est ensuite devenu un véritable rituel mondain, une addiction collective, avec le plaisir du geste, de la fumée, de la pause. Sur les champs de bataille, d'ailleurs, à l'armée, on l'a oublié. Ça faisait partie, d'ailleurs, des rations qu'on donnait aux soldats. Il y a eu effectivement, en plus, une espèce de passage obligé quand on voulait être d'un certain milieu qui a été entériné par certains artistes. Je pense à Gainsbourg, notamment, qui fumait, d'ailleurs, à l'antenne. On a oublié, effectivement, Marie-Pierre Revel, que pendant très longtemps, l'État fabriquait du tabac. Au départ.
Oui, c'était la Ceita qui faisait nos cigarettes emblématiques françaises, la gauloise et la gitane. Je me souviens très bien du paquet de gitane avec cette espagnole. C'était très joli d'ailleurs. Et d'ailleurs, je raconte dans le livre qu'à un moment donné, on avait proposé de collecter les paquets de gitane et que je me souviens que mon père fumait ce type de cigarette et qu'au final, si on avait, je crois, totalisé un certain nombre ou un poids, je me souviens plus, ça permettait de financer un chien d'aveugle. Et ma grand-mère paternelle était atteinte d'une maladie qui l'avait rendue aveugle, elle avait une rétinite pigmentaire. Enfin, voyez le truc complètement maléfique.
L'impact de ce livre, c'est effectivement que vous parlez de vous et que vous êtes plus que concerné. Donc, vous êtes témoin, vous êtes victime. Vous avez perdu votre cousine, Véro, à l'âge de 48 ans. Vous avez vous-même été touchée par un cancer du poumon, mais grâce au dépistage, vous avez réussi à le soigner. Vous avez été fumeuse. Et vous racontez d'ailleurs à quel point les femmes ont mis du temps à fumer et qu'à un moment donné, c'est devenu un peu un passage obligé. D'ailleurs, dans les années 70.
Et moi, je suis en plein la génération où la cigarette était omniprésente. J'ai grandi en regardant des films de cow-boys à la télé où ça fumait. On fumait partout, dans les transports, dans les avions, dans les restaurants, à la télévision, dans les débats. Enfin, c'était normal, quoi. Ensuite, bon, j'ai fait des études de médecine.
Des fumées de plus en plus pendant.
Ah oui, alors ça, vraiment, la première année de médecine, c'est une tabagie intense en ce qui me concerne. Et puis, alors que j'étais confrontée professionnellement au cancer du poumon, puisque je fais beaucoup de bilans d'extension de cette maladie, je participe à des réunions pluridisciplinaires pour décider des traitements, je fais des biopsies d'images suspectes. Le jour où ma cousine est tombée malade, ça a été une sorte d'électrochoc, parce que quelque part, le fait que la cigarette soit banalisée, on a des losanges rouges très régulièrement dans notre espace urbain, on le voit encore beaucoup au cinéma. Au cinéma, ça c'est vraiment un vrai problème. On a une espèce d'anesthésie, de défaut de prise de conscience. Et vraiment, moi je me suis dit, si moi qui suis professionnelle de santé, ça m'a fait un tel électrochoc, la maladie de ma cousine, j'ose pas imaginer ce que c'est dans l'esprit du public qui est moins averti que moi, qui est moins confronté à la maladie. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce témoignage à l'occasion de ce livre, qui n'est pas un livre médical sur qu'est-ce que c'est que le cancer du poumon. C'est vraiment partager ce qui est arrivé à Véro, ce qui m'est arrivé, l'historique aussi de cette insidieuse pénétration de la cigarette dans notre société, de tout ce qu'a fait l'industrie du tabac pour semer le doute, et puis les débuts du dépistage, et aussi donner un message qui est, voilà, il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on sorte de cette maladie qui est totalement fabriquée au XXe siècle et qui avant était quelque chose d'extrêmement rare.
Avec effectivement un doigt bien placé et une lumière qui est vraiment est fixée sur un objectif, le dépistage. Il vaut mieux prévenir que guérir. Quand on a été fumeur, même si on ne l'est plus aujourd'hui, qu'on a beaucoup fumé, on est à risque.
Voilà. Et avant d'arriver à la solution qui sera la meilleure, qui est que plus personne ne s'expose, c'est-à-dire qu'on arrive à cette fameuse génération sans tabac. Mais là, notre souci est le suivant, si demain, plus aucun Français ne fume, il y a malheureusement 3,5 millions de personnes pour qui le mal est déjà fait, le risque est déjà acquis. Donc soit on continue à sortir les Kleenex et à pleurer les 33 000 décès annuels par cancer du poumon, soit le seul moyen à court terme de diminuer le nombre de morts par cancer du poumon, c'est dépister la maladie quand il est temps. Donc, c'est pas du tout opposé. Vous savez, longtemps, il y a eu une opposition entre ceux qui disaient il faut faire de la prévention primaire, c'est-à-dire mettre tous les moyens dans la lutte contre le tabagisme, et d'autres qui disaient non, il faut dépister. En fait, il faut faire les deux. Il y a le dépistage qui va sauver la mise pour les gens pour qui, bah, malheureusement, le risque est déjà acquis et qui ont quand même intérêt à se sevrer du tabac parce qu'ils arrêtent d'augmenter leur risque. Il y a toujours un bénéfice à arrêter. Et puis, travailler collectivement à ce que demain, plus personne ne fume parce que malheureusement, il n'y a pas le choix. C'est trop addictif et c'est trop responsable de dégâts.
Parlez-nous du cancer du poumon. Effectivement, il ne fait pas de bruit. Voilà. Les douleurs n'apparaissent que quand c'est un moment
exactement
très critique.
Le poumon, c'est un organe qui, à l'intérieur, a très peu de nerfs. Moi, je me rends compte quand je fais des biopsies d'images suspectes. Il faut faire une anesthésie très soigneuse de la peau jusqu'à l'enveloppe du poumon qui s'appelle la plèvre, qui, elle, est très, très innervée. Donc, il faut vraiment mettre une grosse dose d'anesthésie au contact. Mais après, une fois qu'on est dans le poumon, aucune sensation douloureuse. Alors qu'on va aller prendre un petit morceau, vous voyez, quand on fait une biopsie. Et donc, c'est pour ça qu'une petite tumeur peut se développer tranquillement. Alors, si elle est au centre, elle va mettre très longtemps à atteindre la cage thoracique, où là, ça va commencer à faire mal. Si elle est près des grosses bronches, elle va les boucher, on va faire éventuellement une pneumonie, mais pendant très longtemps, ça va être silencieux. Et ce qui fait que quand on attend les symptômes, malheureusement, 80% des stades sont des stades avancés, et même un peu plus de 50% sont déjà des stades avec des métastases. Où là, c'est difficile d'avoir un traitement curatif. C'est pas impossible. Je crois que voilà, faut aussi que j'explique qu'il y a une grande hétérogénéité dans les cancers du poumon. Même certains stades métastatiques, si par chance ils ont une mutation pour laquelle on a thérapie ciblée, ben on peut mettre les gens en rémission très 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 prolongée. On n'ose pas parler de guérison, mais voilà. J'imagine que là, au moment où on parle, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en traitement. Il y a la statistique générale et puis il y a les cas individuels et il y a une grande hétérogénéité des formes.
Donc si vous nous écoutez, même si vous ne souffrez pas, si vous avez beaucoup fumé, allez-y. Quoi qu'il arrive, ça risque de vous sauver la vie. Ça va peut-être vous permettre de vous sauver
la vie.
C'est très
allez-y,
important de le préciser.
Allez-y, mais allez-y dans un programme structuré. Le dépistage du cancer du poumon, ça doit se faire dans des centres experts et on est en train de le mettre en place avec l'Institut National du Cancer. L'étude cascade que j'ai coordonnée a terminé son recrutement. On ne peut plus prendre c'est la loi de la recherche. Hein. On a un nombre d'effectifs et on n'a pas le droit d'inclure une personne de plus. Mais très prochainement, tout début d'année prochaine, on va ouvrir le programme Impulsion. On va recruter 20 000 participants et c'est très important que le dépistage soit fait par des gens experts qui ont été formés, qui se servent d'outils d'intelligence artificielle. Il ne faut pas aller le faire au coin de la rue et il ne faut pas se précipiter non plus. Donc ce programme Impulsion va être une étape pour qu'on passe ensuite au dépistage organisé comme pour le dépistage des autres cancers.
Alors quand on pense à l'intelligence artificielle, on pense évidemment pas forcément à des choses positives, mais là pour le coup l'intelligence artificielle est un outil très précieux.
C'est un outil très précieux et ce qui fait que c'est maintenant, vous voyez souvent j'ai entendu la France est en retard, etc. On n'est pas en retard du tout. C'est maintenant qu'il est mûr de passer en population. Parce que, en fait, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Dans le cadre d'une étude, vous êtes dans un effectif limité où c'est un peu un monde idéal où tout le monde est expert. Quand on passe en population, on change complètement de paradigme. Il faut s'assurer que Tout est fait partout avec la même qualité. Il y avait une question qui était la lecture des scanners dans les études, c'était essentiellement une double lecture humaine. Ça, en population sur 3,5 millions, c'est extrêmement difficile à envisager. Et grâce à l'IA, grâce à l'intelligence artificielle qui peut être ce deuxième lecteur, bah là, maintenant, on peut y aller. Et c'est ce qu'on tend à démontrer dans l'étude Cascade. Hein. C'était, bon, ok, une étude chez les femmes, mais surtout, ça évaluait si l'IA peut nous servir d'alternative à une double lecture humaine pour être prêt à ce déploiement large en population. Une IA qui reste sous notre supervision. C'est-à-dire qu'on ne croit pas aveuglément, mais qui nous aide à éviter des erreurs d'inattention, des erreurs parce qu'on n'a pas détecté. Il y a des nodules, des fois, qui sont un peu cachés et que l'IA va pouvoir mieux détecter que nous, tandis qu'il y a d'autres formes de cancer qui lui échappent complètement pour l'instant.
On l'a vu, les femmes fument notamment depuis les années 70, donc ça fait 50 ans que ça a démarré, entre guillemets, cette addiction à la cigarette. Chaque mois de novembre est devenu un mois sans tabac, ça vient d'Angleterre, c'est un programme qui, justement, heureusement, est en train de se développer davantage. Que disent les chiffres ?
Alors, les derniers chiffres de Santé publique France sont plutôt des chiffres optimistes, puisque on observe une diminution du nombre de fumeurs quotidien, notamment chez les jeunes. Et en fait, c'est ça la clé, en fait, parce que il y a une première stratégie qui a marché, hein, qui est augmenter le coût des paquets de cigarettes, ce qui marche pas mal chez les jeunes, mais qui peut aussi induire deux choses. D'abord, de dévier vers des modes de tabagisme plus toxiques, c'est-à-dire faire soi-même ses cigarettes, hein, le tabac à rouler. Ça, c'est deux fois la toxicité d'une cigarette manufacturée. Et d'autre part, générer du trafic. Il y a des trucs transfrontaliers. Il paraît qu'il y a certains coins dans Paris où on peut aussi aller acheter des... Voilà. En fait, moi, je pense qu'il faut dégoûter les gens du fait de fumer. Il faut que ça devienne plus du tout glamour. Il faut que ça devienne ce que c'est, quelque chose de dégueulasse, qui nuit à la santé, qui... Et une source de pollution, mais monstrueuse, 450 milliards de mégots de cigarettes qui se déversent dans nos océans. Toute cette pollution des microplastiques qu'on trouve dans les poissons, la déforestation, le coût aussi du transport des cigarettes. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de clientèle et que collectivement, on arrive à détruire complètement, à déconstruire cette image. Et c'est pour ça que là, vraiment, moi, mon prochain combat, c'est d'essayer qu'au cinéma... On arrête de montrer des gens qui fument et c'est pas innocent. Moi, naïvement, dans le livre, je pensais que c'était les cinéastes qui manquaient d'imagination, vous voyez, pour figurer qu'il y a du stress ou pas du tout. Ce que nous a expliqué Emmanuel Ricard, qui est en charge de la prévention à la Ligue contre le cancer, c'est qu'il y a des espèces de sociétés écrans qui approchent les producteurs au cinéma pour dire, bah voilà, je te finance, mais tu me places une scène de cigarettes à tel et tel endroit, c'est du placement de produits. Ça devrait être complètement interdit, quoi. C'est scandaleux.
Jusqu'en 1930, justement, le cancer du poumon est resté une maladie rare. Pourtant, déjà, le médecin allemand Fritz Lingens a publié la première preuve statistique du lien entre le tabagisme et les cancers du poumon. 20 ans plus tard, en 1950, on a su officiellement par deux statisticiens anglais avec un article dans lequel ils annonçaient que les décès du cancer du poumon avaient été multipliés par 15 entre 1922 et 1945, que, effectivement, il y avait un lien de cause à effet. Ce même constat que le tabagisme était une cause de cancer du poumon, de bronchite chronique et de maladie coronarienne a été reconnu officiellement aux États-Unis en 1964. L'hypocrisie, elle est quand même au centre du jeu depuis très longtemps, Marie-Pierre Revel. Encore aujourd'hui, on parle de ces feuilles de tabac roulées. Ça génère énormément d'argent. On sait très bien d'ailleurs que ça ne sert pas que à fumer du tabac.
C'est tout le côté maléfique de l'industrie marketing du tabac. Il y a des choses... Élodie, je suis allée le vérifier en allant dans un bureau de tabac. J'ai demandé s'il y avait du papier à cigarette bio. Et la dame m'a dit oui, bien sûr. Vous imaginez, non, mais qu'est-ce que c'est du papier à cigarette bio? Non, mais arrêtez de vous moquer de nous, quoi.
Fumer bio, ouais, pourquoi pas.
Donc la grosse stratégie de l'industrie du tabac, ça a été de semer le doute. En fait, ils ne disaient pas, ah ben, c'est pas dangereux, mais on n'est pas sûr. Donc, ils ont financé des recherches pour trouver un lien de causalité entre le fait d'avoir un cancer du poumon et peut-être l'alimentation ou peut-être la pollution.
Ils ont voulu absolument d'ailleurs être adoubés par la santé à plusieurs reprises. Ils ont approché des professeurs, des médecins. C'est assez fou. Avec des cigarettes plus légères.
Oui, oui. Alors, j'ai été vraiment étonnée de voir que le JAMA, le journal de l'American Medical Association, jusqu'à une date date relativement avancée, je ne sais plus par cœur, mais je crois que c'est dans les années 50, il y avait des publicités pour les cigarettes dans le journal de l'Association médicale américaine. Au secours.
Édifiant.
Vraiment incroyable. Et alors, le coût des cigarettes légères, c'était essayer de faire croire que bon, c'est moins toxique. J'ai deux collègues qui s'y sont laissés prendre. On faisait ensemble un projet de recherche sur la croissance, la possibilité de croissance pulmonaire après l'ablation d'une partie du poumon quand on est très jeune. Voilà, on essayait de voir si le poumon pouvait repousser. Et donc on travaillait, et puis à un moment donné, ils me disent « Bon, Marie-Pierre, on va sortir fumer notre cigarette. » Donc je les regarde, un peu interdite, quoi. Et ils me disent « Non, mais ça va, on fume des légères. » Je leur ai dit « Non, mais attendez les garçons, je vais vous expliquer les légères ce que c'est. » En fait, les légères, c'est de la daube. En fait, les légères, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a plus de filtres, donc vous allez tirer plus fort sur votre cigarette pour avoir votre dose de nicotine, parce que en fait, c'est ça une cigarette, c'est un distributeur de nicotine. Et donc, en fait, vous propulsez votre fumée plus loin dans vos voies aériennes, ce qui fait que vous êtes plus à risque de faire un type de cancer qui est l'adénocarcinome que ce qu'on faisait comme cancer à l'époque des Gauloises et des Gitanes sans filtre où, comme c'était très fort, la fumée restait à la partie initiale des voies aériennes où les cellules sont différentes et se transforment à un cancer qui est différent. Donc les filtres, les cigarettes légères, ça a juste eu comme effet de changer la nature des cancers du poumon, mais ça n'a pas diminué leur nombre.
Parlons des chiffres qui font mal. Combien de morts par an? Combien de personnes sont touchées par le cancer du poumon aujourd'hui et combien décèdent?
Alors, par cancer du poumon, les derniers chiffres que je connais sont de 2018, c'est plus de 33 000 décès. Mais en tout, si on regarde aussi les décès, ça c'est par cancer du poumon, mais les décès par autres cancers induits par le tabac, il y a aussi des cancers de vessie, c'est aussi mis en cause dans le cancer du pancréas, cancer des ORL, plus toutes les maladies cardiovasculaires, là on estime que c'est 75 000 décès par an. C'est quand même beaucoup. Hein.
Le tabac, effectivement, est souvent à l'origine des maladies cardiovasculaires, donc des infarctus, des AVC, enfin tout va avec. Tout se bouche, tout simplement, il suffit qu'il y ait du stress et évidemment les plaques se décollent. Ce qui est fort dans cet ouvrage, c'est la sincérité avec laquelle vous vous adressez à nous. Vous êtes à la fois dans le milieu médical, c'est-à-dire que vous êtes à la fois au contact des patients. C'est difficile par moment de ne pas réussir à se faire entendre. Vous ne trouvez pas que le ton est très long, d'ailleurs vous le racontez, quand vous avez voulu mettre en place ce dépistage-là, ce fameux dépistage appelé cascade, dont vous êtes très fière parce que c'était un nom féminin, enfin, pour aborder ce sujet-là.
Oui, très honnêtement, je ne sais pas si ma cousine Véro adorait, si elle n'était pas tombée malade, si j'aurais eu cette initiative, j'en sais rien en fait. Donc en fait, Véro, elle est tombée malade à 48 ans et elle est décédée à 58. Ça a quand même duré presque 10 ans. Pour moi, c'était insupportable de voir cette... Elle avait une forme que les traitements ont contrôlée. D'abord, elle a été opérée, ce qui est heureusement, mais elle avait malheureusement une forme avancée et qui a évolué assez lentement, mais inexorablement. Moi, je me suis sentie très coupable, déjà, de ne pas l'avoir convaincue d'arrêter de fumer, ce qui avait été mon cas. Encore plus coupable que moi, en douce, j'ai fait 2 ans après l'annonce de sa maladie, mon petit scanner de dépistage, ma surveillance 4 ans, puis une petite chirurgie de rien et que je me tire d'affaire, et qu'elle se débatte avec une maladie qui a quand même été difficile, notamment les 2 dernières années de vie, on était dans le dur. Et donc, je me suis dit, je ne veux pas être la seule à me tirer d'affaire. Pour Véro, je ne peux pas, mais peut-être que pour d'autres femmes, à risque, et demain des hommes, enfin des femmes et des hommes. J'ai pris l'angle des femmes, pourquoi? Parce qu'on manquait de données féminines. Comme en France, on n'avait pas lancé de grandes études. C'est peut-être là-dessus qu'on a eu un peu de retard, sur les études. Aux États-Unis, il y a eu une étude à plus de 53 000 participants. Belgique et Pays-Bas, une étude à plus de 15 000. Nous, on avait fait un petit dépiscane qui n'avait pas très bien marché. Bon, cette étude belge et néerlandaise, cette fameuse étude Nelson, sa dernière phrase, c'était « More research is needed in women ». Plus de recherche est nécessaire chez les femmes. Je dis, allons-y. Et j'ai proposé donc de faire cette étude ciblée sur les femmes. Pas parce que je considère qu'il faut laisser les hommes mourir d'un cancer du poumon, pas du tout, mais parce qu'on avait besoin de combler ce déficit de connaissances et que c'était aussi une façon d'attirer l'attention que maintenant, vous voyez, qu'il y a votre écoute, qui est celle que les femmes françaises, elles meurent avant tout de cancer du poumon, devant le cancer du sein. Vous voyez, il y avait un peu cette double ambition. Et voilà, c'était ne pas rester à subir, mais essayer de faire quelque chose qui était dans mon champ de compétences, c'est-à-dire le dépistage, essayer de répondre à des questions dont on n'avait pas les réponses. Les études sur le dépistage qui ont démontré son bénéfice médical, elles ont toutes été faites avant l'ère moderne de l'IA qui repose sur le deep learning. Donc je me suis dit, allons-y, regardons si justement on peut se passer d'une double lecture, vous voyez, pour préparer demain qu'on puisse faire un déploiement en population.
Pour combattre, il faut donc dépister avec des techniques qui sont de plus en plus légères, hein, qui ne sont plus de la chirurgie très lourde.
Trois secondes. On gonfle les poumons, 3 secondes, ça fait pas mal, il n'y a pas d'injection, très peu de rayons. Enfin, vraiment, c'est le test le plus simple qui puisse être fait. Après, derrière, il faut lire les images, et il y en a beaucoup, hein, plusieurs centaines. Se servir de l'IA, bien travailler. Et surtout, maintenant, on a bien affiné nos critères, ce qui fait que, en gros, on amène à la chirurgie uniquement les gens qui doivent être opérés. On a fait, dans Cascade, aucune chirurgie futile. Hein. On s'adresse à une population qui, a priori, n'a pas la maladie, fort heureusement. Donc, vous voyez, si on a des stratégies qui ne sont pas affinées et qu'on amène à des explorations invasives, voire à des chirurgies, des gens qui n'ont rien, ça, c'est pas bien. Donc, il faut vraiment que ça soit mûr, et maintenant, c'est mûr.
Depuis 2022, un tournant a été effectué au niveau européen pour l'implémentation du dépistage du cancer du poumon. Le Conseil européen a définitivement inclus le cancer du poumon parmi les cancers à dépister.
Ça, c'était un signal très, très fort. Voilà. Le 9 décembre 2022, la décision du Conseil européen de réviser ses recommandations qui dataient de 2003.
Au 27 États membres de se lancer dans cette urgence. Décision suivie, effectivement, d'un financement et le début du programme Impulsion. Vous êtes empli d'espoir aujourd'hui.
Oui, et on va dès que les aspects réglementaires sont réglés, c'est un programme très ambitieux, notre programme Impulsion, parce que vous voyez, il y a le traitement par l'IA, il faut vérifier la sécurité de nos systèmes, pas prêter le flanc à des risques de cyberattaque, etc. Donc c'est assez complexe à mettre en œuvre, mais tout le monde est prêt dans les régions. Les ARS soutiennent l'implémentation de ce programme. Avec la Société française de radiologie et les radiologues privés, on a défini dans chaque région un expert radiologue qui travaille dans le service public et un qui travaille dans le privé, pour identifier un maillage régional de centres avec des professionnels qui ont été formés au dépistage. Ça fait 4-5 ans qu'on forme massivement les radiologues français au dépistage, de façon à couvrir le territoire et que les participants éventuels n'aient pas à faire 500 km pour aller rentrer dans le programme Impulsion. Donc voilà, tout ça est en très très activement. Avant de vous rejoindre, j'avais d'ailleurs une réunion, on a plusieurs réunions de coordination par semaine pour voir les avancements, où est-ce qu'on en est, pour déclarer les nouveaux centres au comité de protection des personnes, les démarches auprès de la CNIL, et on espère commencer le plus vite possible.
Donc, il faut arrêter de fumer si vous fumez, ne pas commencer même pas avec la cigarette électronique.
Alors, c'est vrai que la cigarette électronique pour des non-fumeurs, c'est pas une bonne idée parce que c'est rentrer dans une dépendance à la nicotine. Comme moyen de sevrage pour aider les fumeurs à avoir un apport de nicotine qui soit moins toxique que celui qu'apporte la cigarette, c'est probablement une solution intéressante. En tout cas, c'est ce que disent mes collègues tabacologues. Et puis, il faut, pour ceux qui sont fumeurs, se faire aider. C'est vrai que c'est pas simple d'arrêter de fumer, et je le comprends d'autant plus que je me pose pas comme quelqu'un d'extérieur. Je sais ce que c'est que le craving, cette envie irrépressible de fumer. Je sais que j'ai été soutenue, je suis allée consulter une collègue tabacologue. Au final, j'avais pas une dépendance si forte que ça. Moi, j'ai pas eu besoin de patch, j'ai réglé le truc avec des chewing-gums à la nicotine. Mais voilà, il faut se dire que on n'a pas trop le choix. Il faut essayer dès qu'on peut de se sortir de ce guépier. Et si on n'arrive pas à le faire seul avec l'application Tabac Info Service, aller consulter un professionnel, pas se dire que c'est impossible, parce que beaucoup de fumeurs se disent je sais bien que c'est pas bon, mais je peux pas faire autrement. Si, on peut faire autrement si on est aidé. Et aussi, il y a 2 freins, les femmes qui ont peur de grossir et les gens qui ont l'impression qu'ils vont perdre tout plaisir dans la vie. Alors c'est ces 2 choses-là qu'il faut déconstruire.
Merci Marie-Pierre Revel d'être passée dans le monde d'Élodie sur France Info. Votre livre En finir avec le cancer du poumon, c'est possible, est disponible aux éditions Le Duc. Je rappelle que le mois de novembre...
Au profit de la Ligue contre le cancer, je tiens à dire que j'ai posé que je ne voulais pas toucher 1 centime d'euro sur la vente de ce livre. Donc le contrat a été établi entre Le Duc et la Ligue contre le cancer.
Raison de plus pour vous procurer ce livre. Et je rappelle que le mois de novembre est le mois sans tabac. Donc profitez-en pour tenter d'arrêter si vous fumez. Encouragez votre entourage qui souhaite se lancer dans cette démarche. Et pensez à vous faire dépister. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.